Océane. Légende bretonne.
Et on retrouve aujourd'hui Justine Jouet, historienne, conférencière et autrice. Elle étudie depuis des années le monde des sorcières, très présente dans l'imaginaire de la région et bien au-delà d'ailleurs. Des sorcières sur lesquelles elle fait de nombreuses recherches dans le but de les réhabiliter, comme on le disait la semaine dernière. Aujourd'hui, elle nous présente plusieurs d'entre elles et aussi d'entre eux, puisqu'apparemment les sorcières n'étaient pas exclusivement des femmes. Justine Jouet.
Alors ouais, ça c'est important pour moi aussi d'en parler parce que je suis d'accord que quand on a brûlé des sorcières, on a brûlé des femmes. Moi, c'est ce que je dis dans mes conférences, que le premier chef d'accusation, c'est d'être une femme. Mmh. Le mobile genré ou sexuel comptait beaucoup. Mais il y a eu des hommes aussi. C'est-à-dire, si on part de la base connue de 100 000 victimes à peu près, ça représente 20 000 hommes. Et aujourd'hui, c'est très bien de mettre en avant la sorcière en tant que femme brûlée pour chasser, mais il y a aussi les hommes. Et là, il ne faut pas les oublier non plus, parce que certains ont été donnés soit à tort sous la torture, soit faisaient partie de l'ordre des sorcières qu'on pensait, c'est-à-dire une thèse un peu très complotiste pour l'époque. Mm-hmm. Donc il ne faut pas oublier les hommes.
Donc on n'oublie pas les hommes, 20% de... En fait, c'était des rebouteux, mais aussi des druides.
Alors les druides, je n'avancerai pas sur le sujet, vraiment, mais véritablement, je pense qu'il y avait des gens de ce milieu-là, ouais, une certaine sensibilité. Ou alors, en fait, je pense véritablement que quand on a donné ces hommes-là ou ces femmes-là à la justice, il y a deux types de dénonciateurs. Il y a ceux qui pensent véritablement qu'il y a un ordre, enfin en tout cas, rappelons-le, les sorcières et les sorcières sont vues comme une sorte de société secrète qui sont là pour annihiler le monde, faire le mal, etc. Mmh. Je pense véritablement.
Là, vous parlez dans l'imaginaire collectif de l'époque, c'est ça?
Ah oui, dans l'imaginaire collectif.
D'accord.
Oui. Je pense véritablement qu'il y avait des dénonciateurs qui croyaient à ce qu'il disait, en disant, voilà, je donne une sorcière, le monde s'en portera mieux avec sa disparition. Mais je pense aussi qu'il y avait un autre type de négociateur, qui étaient ceux qui se sont servis de la chasse aux sorcières pour se débarrasser d'un voisin ou d'une voisine un peu encombrant.
Ouais. Vous qui avez énormément travaillé sur le sujet, quelles sont les grandes sorcières qui vous ont particulièrement marqué, vous, dans la région? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner et peut-être nous raconter un petit peu leurs histoires?
Alors, dans la région, j'en ai deux. Donc, évidemment, j'ai Naya, j'ai Hélène Jégado, et au niveau de l'Europe, j'ai Anna Goldie, parce que son histoire est vraiment forte.
On peut peut-être revenir sur l'histoire de Naya pour nous la présenter en quelques mots, si c'est possible.
Oui, alors je vais essayer de la présenter en quelques mots. Naya, elle a été photographiée en 1898 par un photographe qui s'appelle Charles Géniaud. Charles, il est photographe reporter, c'est-à-dire l'équivalent de journaliste aujourd'hui.
D'accord, au début du XXe siècle, donc, c'est ça?
Au début du XXe siècle. Il arrive à Rochefort-en-Terre, on le sait parce qu'on a réussi à le resituer donc en 1898, et il apprend par la population l'existence d'une sorcière et il rencontre Naya. Et il nous livre deux témoignages à 4 ans d'intervalle qui sont légèrement différents mais qui restent sur le même mode. Mmh. Et aujourd'hui, Naya, c'est une énigme. Elle reste totalement une énigme parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui elle était. Et ses pouvoirs, après, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, elle avait le don d'ubiquité, c'est-à-dire à deux endroits différents. Au même moment,
d'accord.
Le don de voyance, donc prédire la mort de quelqu'un, le jour et l'heure de son décès. Mm-hmm. Donc tout ça, ça renouvelle. Ça
a alimenté en tout cas la légende de Naya jusqu'au point d'en faire un livre pour ce qui vous concerne. On y reviendra à Naya plus tard aussi, mais et vous nous parliez d'Hélène Jégado, pareil, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la présenter?
Alors Hélène, quand je parlais de personnes qu'on ne peut pas réhabiliter, elle en fait partie, dans le sens où Hélène Jégado, elle a le point commun avec Naya d'avoir grandi, évolué dans un univers de croyances et de superstitions, puisqu'à cette époque-là, les croyances étaient fortes en Bretagne. Mmh. Et Hélène Jégado, elle a été reconnue coupable en 1852 de 7 empoisonnements et 7 tentatives d'empoisonnement. Mais on sait au total qu'on parle de 37 empoisonnements minimum, puisqu'il y a une période de sa vie où elle a totalement disparu pendant 7 ans. Donc là, il n'y a pas de réhabilitation possible puisque ces crimes ont été reconnus. Il y a la médecine légale de l'époque a prouvé que ces victimes avaient été empoisonnées à l'arsenic notamment. Mmh. L'idée, c'est d'aller voir les travaux de Jean Tellet. Donc Jean Tellet, oui, qui est malheureusement décédé il y a quelques mois. Mmh. et qui a écrit Fleur de tonnerre, qui
était
romance
inspiré
la
de
vie
la
de
vie
l'aigle.
justement d'Hélène Jégado, c'est ça?
C'est ça, voilà. Donc, il fait d'Hélène Jégado une femme qui a un culte des pierres levées, qui aurait tué selon l'Ankou. L'idée, ce n'est pas de démonter pierre par pierre le travail de Jean Tenet, mais d'aller voir un petit peu. Je pense que dans son roman, il y a une part de vérité, quelque part. Voilà,
il y a un vrai travail de vérification à faire maintenant aussi, et c'est ce à quoi vous allez tenter de vous atteler aussi. Juste une dernière question quand même, Kim Tarot, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, Justine. Est-ce qu'il existe finalement encore des sorcières aujourd'hui?
Oui.
La réponse est claire.
Sans hésitation. Oui, oui.
Sans
oui.
hésitation. Et
après,
vous en avez rencontré, vous?
Ah oui, ça m'arrive régulièrement d'en rencontrer des sorciers un petit peu moins. Mais en tout cas, des sorcières, oui. Alors, ça,
je crois même que certaines sont venues d'elles-mêmes à votre rencontre, hein, c'est ça?
Oui. Tout à fait. Effectivement, après mes conférences ou mes visites guidées, il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont des sensibilité extrasensorielle, on peut appeler ça comme ça, voire même qui sont simplement connectés à la nature et puis qui utilisent les plantes. Et en fait, je crois que certaines se disent véritablement sorcières et d'autres sont plutôt, n'aiment pas se donner des étiquettes, mais vivent selon la nature, etc. Et finalement, je pense que c'est ça qui est important à retenir, c'est que être ancré dans une société qui va vite aujourd'hui, c'est une véritable richesse.
Très bien.
Et en ça, ce sont des personnes très riches.
Très riche, très enrichissante également, un univers passionnant de la sorcellerie, donc vous l'avez compris, d'hier et d'aujourd'hui. On s'attardera ici plus tard en particulier sur Naya, qui a fait, donc on l'a dit, hein, fantasmer beaucoup de monde du côté de Rochefort-en-Terre et sur laquelle vous avez édité votre livre baptisé Le mystère de Naya, une sorcière à Rochefort-en-Terre. On aura l'occasion d'y revenir donc dans les prochaines semaines. Je rappelle au passage votre site internet également, histoire de sorcière au pluriel.com. Merci beaucoup, Justine Jouet. À bientôt.
Merci à vous. Au revoir.